Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Follavoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, et c'est Lis des livres sur CFM, votre rendez-vous littéraire du mardi à 12h35 et en rediffusion le samedi à 18h. Présenté par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Accompagné de Joël de la librairie La Follavoine. Bonjour Joël.
Bonjour,
bonjour
Fred.
Joël.
Et bonjour Monique.
Donc aujourd'hui nous allons vous parler de Prends garde de Luciana Castellina et Milena Auguste aux éditions Liana Levy et d'un album jeunesse, Le Chapitaine de Inga Mohr aux éditions de l'École de loisirs Collection Pastel. Suivi de notre chronique avec Joël. Donc, Prends garde est un objet littéraire un peu nouveau dans le concept. Ça nous ramène encore en Italie, parce qu'on est des passionnés de l'Italie. En ce moment, c'est la troisième émission sur l'Italie, c'est un peu hasard. C'est un roman écrit à quatre mains, donc, par Luciana Castellina, qui est une figure de la gauche italienne en politique, écrivain et journaliste, qui raconte des faits historiques dans l'Italie de 1946. L'autre côté, carrément à l'envers, est écrit par Milena Auguste, qui est romancière. On la connaît pour son très beau roman Mal de pierre, qui date déjà de 2007. Et elle s'empare du même épisode sous son aspect plus intime et personnel, oui, si on peut dire, de l'intérieur. Alors, tous les personnages que l'on croise dans ce roman mériteraient une histoire à eux tout seuls, puisque c'est une époque très troublée, aventureuse et dramatique. Et c'est cet aspect que va développer Luciana Castellina dans une partie historique qui est très fouillée, pleine de détails et passionnante sur la situation politique, sociale et économique de la région des Pouilles et plus particulièrement de la ville d'Andria. Alors, elle commence par un événement qui se situe exactement en 1943.
Oui.
Et qui est un événement un épiphénomène qui suit plusieurs événements eux-mêmes violents et qui consiste en lynchage de quatre sœurs, dont deux seront tuées, suite à un discours qu'un certain De Vittorio, qui est le secrétaire du
parti,
oui, c'est le syndicat des travailleurs italiens. Et normalement, il aurait dû faire un discours à l'occasion de la journée de la femme. Il y a des retards parce qu'il a été obligé d'aller négocier le retrait des troupes armées dans le village parce qu'il y avait déjà eu des exactions un peu bizarres. Et par un concours de circonstances, la foule il y a un coup de feu qui est tiré et la foule va se ruer. C'est ces femmes qui sont propriétaires terriennes et qui représentent tout ce que les ouvriers détestent et pour lequel ils souffrent depuis des années, parce que l'Italie de l'époque, pour aller vite, est envahie par une marée humaine de gens qui viennent des pays des Balkans. Il y a des Yougoslaves, il y a des Tchécoslovaques. Il y a des Juifs qui fuient les camps, qui fuient le nazisme. Il y a les soldats qui sont démobilisés parce que la guerre est terminée d'un côté.
Voilà, Fred, vous faites justement Luciana Castellina, c'est-à-dire une des deux œuvres, je dirais.
Oui, mais c'est important pour situer le livre.
Voilà, donc ça signifie que pour le lecteur qui va prendre ce livre en bibliothèque ou en librairie, il devrait commencer par la partie historique, puisque vous placez les événements dans l'histoire, vous commencez par faire l'histoire. Alors ça, c'est une façon d'aborder ce livre. Ça, c'est très très important, puisque c'est un essai, d'une certaine façon, une tentative de mêler l'histoire, la vraie histoire, puisque Castellina est une historienne. Elle présente cette première partie, ou cette partie-là, comme une histoire avec des événements, avec des personnages, avec une chronologie, c'est-à-dire toutes les dates. Et effectivement, ça commence par le 7 mars 1946, donc il y a un événement, et ces événements vont s'enchaîner, voilà, pour la partie historique.
Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, Milena Auguste relève le défi de raconter la partie imaginaire du fait historique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans cette histoire-là, et elle va combler des vides, donner forme à des personnages, leur donner des volontés, des désirs et des non-désirs aussi, parce qu'en fait elle va décrire les sœurs Porot qui sont restées dans leur maison. Finalement, c'est des personnes très insignifiantes, c'est dur à dire, mais c'est la vérité, parce que ce sont des propriétaires terriens qui n'ont pas vu qu'autour d'eux le monde bougeait, parce qu'ils n'avaient pas eu besoin de bouger finalement.
Voilà, ça c'est la fiction, voilà, que raconte Milena Agust. On rentre dans un autre, ça c'est le roman. C'est-à-dire à partir des faits qui sont alignés par Luciana Castellina, Milena Agust fictionne, c'est-à-dire raconte, imagine et place ses personnages dans ce contexte historique qui est bien précis et bien aligné. Et ça c'est le rôle du romancier, c'est-à-dire qu'elle va inventer. Elle va inventer des personnages, ces personnages qui ont existé. On pourrait dire que c'est la vérité, mais non, elle les invente. Et nous, on est là, justement, ils nous prennent à témoin l'une et l'autre pour dire, alors, c'est qui a raison ? C'est l'histoire ou c'est la fiction ? Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de la littérature, c'est-à-dire qu'on peut raconter la vie dans la fiction.
Mais je pense qu'il y a aussi une volonté dans ce livre de rendre justice à des gens qui ont été entraînés dans un drame au-delà d'eux-mêmes, à cause des raisons beaucoup plus larges qui les avaient, et elle voulait rendre justice aux prolétaires de cette époque. Et je pense que c'était intéressant de le faire. Et justement, l'aspect que Milena Agust développe montre à quel point il y avait un décalage entre ces deux sociétés de propriétaires terriens et les prolétaires. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Milena Agust, effectivement, à la manière des sœurs Porot, elle brode. Je ne sais pas ce que tu en as pensé,
complètement,
toi,
Monique. Oui, elle s'est emparée de ce fait divers, puisque au départ c'était un fait divers historique, et voilà, qu'elle a resitué dans ce contexte-là, et en même temps, comme tu disais, Joël, totalement imaginaire.
Alors Joël va nous lire quelques paroles.
Oui, un passage de Gide, justement, qui va tout à fait dans le sens que vous développiez. Un livre est toujours une collaboration, et tant plus le livre vaut-il que plus la part des anges y est petite, que plus que la part du scribe y est petite, et que plus l'accueil des anges est grand. Attendons de partout la révélation des choses, du public, la révélation de nos œuvres. C'est-à-dire les œuvres, la part du roman est révélée par le lecteur. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire vous avez tiré de l'œuvre de Milena Agust ce qui vous a intéressé à dire ça. C'est important de dire ça pour vous. Et le romancier, il dit tout. Et le lecteur prend un certain nombre de choses. Et Gide dit ça. Il dit finalement, mon œuvre, elle sera connue quand le public me l'aura renvoyée.
Donc on va écouter Bella Ciao.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Donc on va faire dans quelque chose de beaucoup plus léger, on va parler du Chapitaine, qui est un adorable livre écrit par Inga Moore. Moi je connaissais un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Les six repas du chat, qui était déjà plein d'humour et beaucoup plein de chats. Et cette histoire, Monique va nous en tracer les grands traits.
Voilà, les grandes lignes. Donc il était une fois un capitaine de navire qui avait à son bord beaucoup plus de chats que de marins. Et pourquoi cela, me direz-vous ? Parce qu'il adorait les chats, tout simplement. Et comme il était marchand, il pratiquait un bien curieux troc dans chaque contrée où il accostait. Vases, tissus et autres objets précieux contre un chat. Ce qui, pour lui, ne valait nulle autre richesse en ce bas monde. Un jour, il hissa la grand voile pour partir à l'aventure vers de nouvelles découvertes. Mais une terrible tempête le dévia de sa route initiale et le capitaine arrive en pays inconnu. Homme et chat se retrouvent alors face à une île où ils sont accueillis en grande pompe par une petite fille. Et cette petite fille, c'est la reine de ce joyeux bout de terre. On convie donc le capitaine et ses compagnons pour un grand dîner au palais, qui hélas tourne court parce qu'une horde de rats envahit la salle à manger, semant évidemment l'effroi et le désordre autour de la table royale. Vous devinez la suite, n'est-ce pas? Au moment de quitter l'île, cruel dilemme pour le capitaine. Accepter de laisser ses chats pour détruire les rats, en échange de mâles remplis de pierres précieuses, de diamants et de rubis. Il rentre au port en attisant la convoitise des autres marchands. Le capitaine reverra-t-il ses chats?
Et parce qu'il prend, hein, il prend les bijoux et les
il prend les bijoux et les pierres et précieuses, voilà. Donc, à vous de découvrir la fin de l'histoire. Donc, c'est un très joli conte, hein, aux illustrations vraiment pleines de charme et complètement décalées. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé.
Oui, puis il y a un humour.
Voilà, il y a énormément d'humour. Par exemple, la reine est une petite fille en short. Le capitaine, il a un air de Père Noël. Et les illustrations sont
les marins aussi.
Et les marins aussi
quelque chose
très,
des films de Jacques Demy.
Très drôle, oui.
La Java qu'ils font, elle est pas mal quand même, parce qu'il y a les marins et les petites filles.
Ah
là,
oui, c'est
ça,
c'est
hein.
Ouais,
il y a des rats, mais enfin bon.
Donc des couleurs douces, il y a des tas de détails, ça foisonne de partout. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la construction de l'histoire et dans les dessins, c'est que ça rappelle beaucoup les carnets de voyage.
Oui. C'est l'île au trésor.
Voilà, ça, c'est un peu... Et puis en même temps, ça pose quand même la question de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, la valeur des choses en fait.
Voilà, et pour finir avec les chats, eh bien on va écouter Pogo, le chat.
Me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le caresse sur moi.
Oui, je vais continuer avec la vie de Marie de Régnier. La dernière fois, on s'était arrêté brutalement après son premier livre, Le Séducteur, qui était l'histoire de son père.
Pardon, Joël.
Et son premier succès. Donc, elle est avec ce livre-là, elle est propulsée dans le monde de l'édition, et elle va participer avec Paul Bourget, Henri Duvernoy, Pierre Benoît à un roman. Le roman des quatre, un roman à quatre mains, qui va avoir un énorme succès, qui même va avoir une suite qui s'appelle Micheline et l'amour. Ça sera encore publié en feuilleton. Mais ce qui fera surtout vraiment entrer Marie de Régnier dans la postérité, c'est le roman de sa vie. le roman de sa vie qui sera en particulier mis en mots par Pierre Louis. Pierre Louis avait une relation assez tumultueuse qui est faite d'amour, passion et chevelé, ça je vous en avais parlé, des longues séparations, des retours fulgurants. Et ce sera pour Pierre Louis une source d'inspiration inépuisable. Marie est la splendide chevelure de Chrysis dans Aphrodite. Elle est présente dans les chansons de Bilitis. Et c'est bien sûr la Conchita dans La femme et le pantin. La femme et le pantin qui sera mis en film par Eric von Sternberg. Et c'est pas n'importe qui va jouer le rôle de Marie. Je vais vous trouver le nom de la... Ah, il est là, le nom de l'actrice. Et ce sera aussi Julienne Duvivier. Alors, c'est Marlène Détriche, oui. Et Julienne Duvivier qui reprend aussi La femme et le pantin, et cette fois avec Brigitte Bardot. Mais le film de Julienne Duvivier sort en 1959, et je pense que Marie de Régnier a eu le temps de le voir, et certainement qu'elle n'a pas été déçue par Brigitte Bardot, qui joue le rôle d'une andalouse danseuse de flamenco, qui est étincelante quand elle danse le flamenco sur une table.
Mais on a vu, j'ai vu la photo de Marie de Régnier, elle a quand même pas grand chose avec Brigitte Bardot. J'ai mis sur le site
La photo de Marie de Régnier prise par Pierre Louis, ça ressemble beaucoup à Brigitte Bardot dans Le Mépris.
De dos,
exactement.
Je vois.
Voilà. Donc Marie de Régnier a surtout a passé la fin de sa vie à essayer de sauver son fils, là, le fameux tigre qui est le fils de Pierre Louis, qu'elle a appelé Pierre et qui porte le nom de son mari. Donc c'est Pierre de Régnier qui a vécu, il dit, sa vie de patachon, donc qui a passé l'essentiel de sa vie dans les boîtes de nuit à Paris. Et finalement, il en a tiré des chroniques qu'il a publiées dans le Figaro, et il a gagné un petit peu sa croûte avec ça. Mais il était là en train de demander de l'argent à son père familial, pas le biologique, l'autre, et à Marie de Régnier. Marie s'est ruinée, a essayé de le sauver. Finalement, il est mort d'éthylisme en 43, alors qu'il était mobilisé. Mais justement, c'est d'actualité, puisque le livre de Pierre de Régnier, Chronique d'un patachon, ces chroniques de Paris 1930-1935, viennent de ressortir aux éditions de la Table Ronde. Voilà toute une équipe qui est encore à l'ordre du jour. Donc voilà pour Marie de Régnier. Je crois qu'on va passer une chanson de Fréhel qui est dans ces époques-là, c'est 1930. C'est encore la belle époque de Marie, mais sur le déclin.
Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimait tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux, tous ces pantins que je vois, ce sont eux. luttant quand même, suprême et fort, je crois les être de rencor. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
On tenait à vous reparler d'un petit fascicule dont on avait évoqué, pas seulement évoqué d'ailleurs, dont Joël nous avait fait une chronique il n'y a pas très longtemps, écrit par Neil Gaiman, qui s'appelle « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination ». C'est un petit fascicule qui est maintenant paru, qu'on peut se procurer à la librairie La Follavoine, et qui sera dans toutes les bibliothèques, qui sera gratuit. Et Monique va vous lire une phrase qu'elle a particulièrement aimée.
« La fiction a deux rôles. D'abord, c'est une drogue d'appel vers la lecture. Le besoin de savoir ce qui se passe ensuite, de vouloir tourner la page, le besoin de continuer même si c'est dur, parce que quelqu'un a des problèmes et qu'il faut que vous sachiez comment tout cela va tourner. » C'est une phrase que j'ai prise absolument là au hasard, mais qui permet de bien faire le lien avec ce dont a parlé Joël l'autre jour, à savoir ce texte écrit par Neil Gaiman. Et je voudrais aussi peut-être rappeler une chose qui nous semble importante à tous, c'est le rôle important que peut avoir une médiathèque et une bibliothèque dans une ville. Et notamment celle de Villefranche, que on ne peut que recommander, bien sûr, sachant qu'en particulier, il y a un rayon jeunesse qui est d'une richesse extraordinaire. Alors il faut savoir que la bibliothèque, c'est un lieu public, et que donc c'est accessible à tous, à tout le monde. Il n'est pas du tout nécessaire d'être abonné à la bibliothèque pour pouvoir y entrer et venir consulter les journaux, etc. Et savoir aussi que l'accès à la bibliothèque et l'emprunt des livres, c'est quelque chose qui est gratuit pour tous les enfants jusqu'au CM2.
Voilà, alors sur ces belles paroles, on va...
On peut trouver tous les livres dont on parle à la bibliothèque, et en particulier Marie de Régnier et Pierre-Louis.
Eh bien, merci à tous.
Au revoir, Marie.
Au revoir.
Au revoir, Joël.
Au revoir, Fred.
Et à la semaine prochaine.
Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous a été présenté par la librairie La Follavoine à Villefranche-d'Orouergue. Thank you.